Riviera Ferraille.
Au Bureau des Mystères, nous aimons beaucoup les films d'horreur, notamment les grandes figures du cinéma de genre. Avec Mathias, nous avons passé des nuits à regarder les nombreux films de la saga Halloween. Alors évidemment, quand Halloween nous a proposé de sponsoriser cet épisode du Bureau des Mystères, nous avons accepté avec joie.
La sortie d'un nouveau volet de cette saga est en soi un événement, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir. Car oui, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un nouveau film de la saga Halloween en ce moment au cinéma. Ce long métrage réalisé par David Gordon Green s'appelle sobrement Halloween. Une sortie ciné comme celle-là, ça donne vraiment envie d'aller dans les salles obscures.
Surtout quand on sait que Jamie Lee Curtis y reprend son rôle de Laurie Strode. Dans ce nouveau Halloween, Laurie est de nouveau aux prises avec le psychopathe Michael Myers, 40 ans après sa première nuit d'horreur. Mais cette fois, la victime ne se contentera pas de courir.
Prête à affronter celui qui l'avait terrorisé dans sa jeunesse, Laurie Strode ne compte plus être la proie du tueur de la nuit des masques. Pour assister à ce combat final, rendez-vous au cinéma. Depuis sa sortie le 24 octobre, Halloween n'en finit pas de faire trembler les spectateurs. Et maintenant, place au mystère. Bonjour, bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles et nous sommes aujourd'hui au plateau bar de la Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival pour notre premier enregistrement en public. Bonjour la Gaîté Lyrique ! Alors on va pas se mentir, c'est notre premier live, c'est un tout petit peu impressionnant pour nous. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le Bureau des Mystères, ce qu'on fait dans l'émission est assez simple. On travaille à recenser et classer tous les mystères qui nous passent sous la main, ou sous le clavier évidemment, puisqu'on est sur internet. On fait un travail de documentation pour ensuite raconter les histoires et faits divers dans le podcast.
Pour ce numéro-là, on a un petit peu changé la formule. Nous allons recevoir trois invités, vous allez avoir la chance de rencontrer tout à l'heure, qui vont nous raconter des phénomènes étranges qu'ils ont vécus. Et on va commencer tout de suite avec notre première invitée.
Notre première invitée s'appelle Taous Merakchi, alias Jack Parker. Vous la connaissez sans doute, elle est journaliste web, elle a travaillé chez Mademoiselle. Elle est l'auteur du blog horreur qui reste, alors tout à fait personnellement, un de mes référents pour le calendrier de sortie des films d'horreur, je ne sais pas pour vous. Elle est aussi l'auteur de l'ouvrage Le Grand Mystère des Règles, paru chez Flammarion. Elle ne s'arrête pas là, elle bosse beaucoup, puisqu'elle est aussi la directrice de l'ouvrage collectif Lettre à l'ado que j'ai été, paru cette année. Elle prépare également un livre sur la sorcellerie. Jack, c'est à toi! Alors oui, il y a une question de placement,
ouais,
de choses comme ça.
C'est... Tout même dos, j'ai peur.
Il faut bien parler, il faut faire des petits bisous au micro pour qu'on t'entende bien. Voilà, ouais, exactement.
C'est bon, c'est bien. Alors Taous, on se connaît depuis un petit moment.
Oh,
et
oui.
tu avais raconté il y a 2 ans une histoire qui m'avait terrifié. C'était dans la nuit originale et tu racontais que tu avais vécu une aventure qui était vraiment digne d'un film d'horreur. Donc pour une personne qui aime beaucoup les films d'horreur comme toi, c'est quand même plutôt cocasse. Et voilà, on avait envie de l'entendre aujourd'hui dans ce live.
Très bien.
Et bon, pour celles et ceux qui écoutent l'émission, vous savez qu'on donne un titre à chacune de nos histoires. Alors voilà, un petit rite. Et qu'on l'annonce de manière inquiétante au micro, en parlant très près. Donc avant de commencer à raconter la tienne d'histoire, quel titre tu lui donnerais ?
Alors... J'ai vraiment pas réfléchi. Donc on va rester dans l'actualité et c'est The Haunting of Dordogne House.
Alors, cette histoire-là, elle est assez folle. C'était un soir où tu t'étais retrouvé dans une maison perdue au milieu des champs avec des amis. Tout avait bien commencé, comme dans n'importe quel début de film d'horreur, j'ai envie de dire. Mais les choses ont très vite mal tourné, comme dans n'importe quel film d'horreur aussi. Et ça a commencé, si je me souviens bien, par des bruits dans la cuisine. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ça ?
Alors, on remet le décor. C'est donc effectivement une maison perdue au milieu de nulle part en Dordogne. petite maison avec piscine. Je suis avec deux amis, donc on est trois meufs dans une maison perdue au milieu de nulle part. De base, étant des femmes en 2013 à l'époque, on a peur, hein, on sait très bien qu'on est vulnérable plus que d'autres, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que je suis la seule à aimer les histoires d'horreur dans ce trio, donc j'essaie un peu de fermer ma gueule, parce que dès que je commence à dire « Hey, imaginez !» je me prends des cailloux. Donc, et finalement, j'ai pas eu besoin d'inventer des trucs, puisque c'est arrivé. Et ça a commencé, effectivement, en plein milieu de l'après-midi. Elles étaient en train de... Je fais des gros bruits ASMR. C'est assez, très agréable. Elles étaient en train de boire des coups près de la piscine, donc... Je vous le montre à vous, les gens n'entendront pas, tant pis, c'est pas grave. La maison, la piscine. C'est-à-dire que c'est pas collé-collé. C'est important. Donc elles étaient toutes les deux en train de boire des coups avec le chien de la maison, qui est un chien qui est un veau, bah, clairement, au niveau de la circonférence. Donc un peu rassurant, en fait. Pas tant que ça, vous le verrez. Et moi, je suis allée faire une sieste, parce que je suis une vieille personne. J'aime bien les siestes. Donc pendant qu'elles buvaient du rosé, moi, je suis allée dormir. Et à un moment, je me réveille. Donc ma chambre était à l'étage. Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine, et ensuite, beaucoup plus loin, il y a la piscine. Donc je m'endors à l'étage tranquillement, et d'un coup, je me réveille en sursaut parce que j'entends du bruit dans la cuisine, comme si quelqu'un avait mal calculé sa trajectoire et s'était pris une chaise et que ça avait un peu crissé sur le carrelage de la cuisine et que ça s'était un peu. Enfin, quelqu'un qui s'en mêle les pinceaux, quoi. Je me dis, bon, bah, le rosé, hein, c'est pas grave, je vais me recoucher. Et au moment où je me réveille de ma sieste pour de bon, je descends, je retrouve les meufs qui étaient toujours au même endroit et elles me disent j'étais vraiment pas réveillée. Elles me font putain, t'as la tête dans le cul. Non, c'est moi qui leur dis, pardon. Je leur dis putain, j'ai la tête dans le cul. Elle fait oui, bah on a entendu ça. Je fais comment ça? Elle fait bah c'est pas toi qui t'es cassé la gueule dans la cuisine tout à l'heure? Je dis bah non, je pensais que c'était vous. Donc premier événement, on commence à se poser de grosses questions. Autre détail important, le chien était avec elle pendant tout le temps et surtout, elle n'a pas le droit de rentrer dans la maison, à tel point que, spoiler, à un moment, on va essayer de la faire rentrer dans la maison parce qu'on a vraiment trop peur d'être toute seule. On n'a pas réussi parce qu'elle est trop bien dressée et elle voulait pas rentrer dans la maison. Donc vraiment, c'est sûr que c'est pas elle qui a foutu le bordel dans la cuisine. Donc voilà, premier événement qui fait que, encore une fois, il est genre 17h, on a bu du rosé, entre autres choses. On est de très bonne humeur, donc on commence à fantasmer, à se dire « Ouais, ça se trouve, il y a un tueur, ça se trouve, il y a un fantôme, ça se trouve, on va mourir, c'est trop marrant. »
Drôle, ouais, drôle de fantasme.
Et du coup, on commence à échafauder des plans de fuite. Le truc, c'est qu'on avait juste une Twingo, donc on peut pas trop faire un drift avec.
C'est suffisant, oh, ça peut servir, ça peut servir.
Donc voilà, au début, c'était très bon enfant, c'était pas très grave, et j'ai quand même attrapé la première arme qui me venait sous la main au cas où. On est dans une très grande maison avec vraiment plein d'objets, plein de trucs, et j'ai pris une pompe à vélo.
Ce qui est au moins aussi effrayant qu'une batte de baseball. Ouais,
ouais. On fait avec ce qu'on a. Voilà, ensuite, je sais pas, je continue ou vous avez...
Oui, vas-y, je t'en prie.
Ok, je vais essayer d'aller vite parce que je suis pas toute seule, il paraît.
Non, bon,
t'inquiète pas, on est cool.
On s'en fout.
On est une production Riviera Ferraille, hein, je rappelle. On est détendu quand même. Hein.
Ok. Donc on passe la journée comme ça à se dire ça se trouve on va mourir et c'est super marrant, et puis la nuit tombe et ça devient vachement moins marrant, et je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, je crois que c'était pas tout de suite la douche.
Moi, je me souviens que tu avais raconté que vous aviez un petit peu dédramatisé en allant regarder un film, en étant voilà, tranquille, et
ah
que
oui,
c'est
non,
à
c'est
ce moment là
exactement, t'as raison. Alors, attends,
tu nous as teasé un très bon moment psychose là.
Ah oui. Donc, on commence à flipper parce que la nuit tombe, parce que les bruits deviennent soudain très effrayants, alors que c'est les mêmes que d'habitude, mais comme il fait nuit et on a peur, bah, forcément c'est dramatique. Et on essaye de se calmer en se disant « bon bah voilà, on va regarder un film, c'est pas grave, on regarde les Kaira
». Ce qui est un très bon move. Je pense voilà, que si t'avais regardé
parce que je pense que tu regardes
pire.
Les Kaira, tu peux pas avoir peur, c'est possible.
T'avais ça et Borat.
Et tour à tour, on va se doucher parce que bah, c'est l'été, on se douche à 21h, c'est normal. Et donc, la première va se doucher, la seconde va se doucher, c'était moi, je crois. Et la troisième y va et elle revient et fait qui est-ce qui a écrit nos noms dans la douche?
Je viens de sentir un frisson dans la salle.
Et évidemment, on se regarde et on attend qu'il y en ait une qui fasse c'est moi, c'est trop marrant. Et personne ne dit c'est moi, c'est trop marrant. Et donc, on regarde la troisième qui vient de sortir de la douche. On fait « Tu te fous de notre gueule ?» Elle fait « Mais non, mais venez voir. » Et du coup, on va dans la douche, on rallume l'eau chaude pour faire monter la buée, et sur la vitre, sur la paroi de la douche, il y avait nos trois noms dans l'ordre dans lequel on allait se doucher. ce qui est quand même assez cocasse. Oui. Personne n'aurait pu le faire à part une de nous trois. C'est pas moi, je vous le dis ici. La vie de ma mère, c'est pas moi. Je soupçonne très peu, parce que comme j'ai dit, les autres, elles sont pas du tout branchées, films d'horreur, canulars. C'était moi, l'enfant de 4 ans, dans ces vacances-là. Elles, c'était les deux mamans, hein, qui m'engueulaient parce que je faisais pas la vaisselle. Donc c'est vraiment pas leur délire de faire ce genre de blague. La seule hypothèse qu'on a pour l'instant, à part évidemment le fantôme ou le psychopathe, c'est le frère de celle dont c'était la maison, qui était parti 2 jours avant, et on s'est dit, ça se trouve, avant de partir, il l'a fait, et comme c'est sur une paroi de douche, ça, avec la buée, ça peut rester quelques jours. C'est assez nul comme
mais du coup, pas l'ordre non plus.
Surtout, hein. Il n'y aurait que la troisième personne qui l'aurait repéré, parce que vous avez été deux avant, donc avec la buée, ça aurait sans doute commencé à apparaître, donc ça paraît surprenant.
Et donc, il y avait effectivement nos trois noms. Donc on a commencé vraiment à se poser des questions en se disant, ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se foutre de notre gueule quelque part dans la maison. On a cherché partout, il n'y avait rien.
C'est une maison qui fait quelle taille ?
Elle, en vrai, elle n'est pas si grande. C'était un truc genre du 150-200 mètres carrés, petite maison de campagne, à la cool quoi.
Toi qui connais les différents genres de films d'horreur, selon toi, si on était dans un film d'horreur là sur cette histoire précise, on serait plutôt dans un truc paranormal ou dans une histoire un petit peu comme le film d'horreur Hill, tu sais, avec les gens qui attaquent la maison. C'est Home Invasion.
Ah, Home Invasion, ouais. C'est sûr.
Qui va partir en slasher ou pas ?
Peut-être que les autres sont mortes et que je suis la seule survivante.
Il y avait une deuxième étape dans ton histoire, c'est le lendemain. Tu en avais parlé, où là il s'est passé un autre truc très très bizarre. Où vous pensiez que ça s'était un petit peu calmé après cette nuit d'angoisse.
Alors non, en fait, ça s'est pas calmé. La nuit n'était pas finie. Après avoir regardé Kyra, on a mis un autre film à la con parce que vraiment on avait besoin de se calmer, on était trop mal. Et à un moment, on entend le chien dehors qui aboie et qui n'aboie que quand il y a quelqu'un qui entre sur le territoire, son territoire à elle, sachant que encore une fois, je rappelle. Hein, pas de voisins, zéro voisin, des champs, c'est tout, juste des champs partout. Donc, on va voir dehors, on fait le tour de la maison, moi, avec ma pompe à vélo, en mode, qu'est-ce qu'il y a ? Donc j'y vais, je remonte mes manches, je fais, y a quoi ? Et je fais genre, je suis super brave alors que je suis en train de me pisser dessus, mais les apparences, tu vois, j'ai une réputation à... Vous connaissez pas ma réputation, vous en foutez, mais j'ai une réputation de personne qui va au combat, ça se voit. Et donc je fais le tour de la maison et je me dis, s'il y en a un, je l'attrape, je m'en fous, je lui fonce dedans. Et en fait, j'entends des pas qui arrivent très très vite vers moi. Et c'était ce putain de chien qui avait juste fait un tour de gogol de la maison, qui était en mode, je sais pas, comme les animaux parfois font leur quart d'heure de folie. Donc voilà, on a essayé de faire rentrer le chien dans la maison pour passer la nuit avec nous parce qu'on flippait. Et on entend un bruit à nouveau dehors. Et il y a une des portes de la maison qui est une porte en verre dépoli, donc où tu peux voir des silhouettes, mais pas des traits. Voilà. Et évidemment, je vais dans le couloir, je regarde et je vois une ombre qui bouge devant la porte. Et je me dis, je suis décédé, c'est terminé. Bon, on a quand même fini par réussir à s'endormir. Je sais pas comment. Enfin, avec l'aide de médicaments de type.
Somnifères, sous ça, ouais.
Bien prescrit avec une ordonnance, ouais, cela. On a bien dormi. Et le lendemain, il se trouve que c'était ma dernière journée. Donc je m'apprête à passer la dernière
journée. Ouais,
non. Je suis morte.
Nous avons en exclusivité un fantôme ce soir.
Sixième sens, voilà. Depuis le début, je suis Bruce Willis. Spoiler. Donc le lendemain, c'est ma dernière journée de vacances, sachant que L2, elle restait. Moi, j'étais la seule à rentrer à Paris, donc je fais pas les couilles, démerdez-vous, c'est plus mon problème. Ma chambre était la seule chambre à l'étage, c'est-à-dire qu'il y a tout au rez-de-chaussée, et à l'étage, il y a les chiottes, ma chambre et une petite salle de bain dans la chambre, et c'est tout. Donc déjà, grosse connasse de m'avoir filé cette chambre-là à moi. Je pense qu'elles l'ont payé cher. Je passe la dernière nuit dans cette chambre, on n'était pas très rassurés parce qu'on n'avait toujours pas élucidé le mystère. Et je m'allonge dans mon lit, face à la porte de la salle de bain qui est dans la chambre, qui est toujours un peu entrouverte. Et j'entends un bruit, comme quelqu'un qui serait de l'autre côté du mur dans la salle de bain, qui avance et qui recule, avec son vêtement qui frotte contre le mur. C'est très précis, je pense qu'il portait un caouet Décathlon. Et je me dis, c'est mon imagination, c'est sûr, c'est parce que je suis en stress, je flippe, mais c'est pas grave, je veux m'endormir, la porte s'ouvre. J'attrape mon téléphone, je pars en courant et je suis allée dormir dans le lit de ma meilleure amie parce que j'ai vraiment vu la porte de la salle de bain café. et ça, je n'ai jamais pu l'expliquer.
La porte s'ouvre toute seule, du coup. Tout,
bah oui, clairement.
Parce que c'était pas très radiophonique.
Rien que d'y penser, j'ai peur. C'est pour ça que je suis pas très bien depuis tout à l'heure. Donc oui, il y a la porte de cette salle de bain qui s'est ouverte toute seule et je suis partie en courant pour dormir dans le lit de ma meilleure amie, comme si j'avais 8 ans.
Vous en reparlez entre vous
Alors, on ne s'en reparle pas parce qu'on ne se parle plus.
Ah bon?
On n'est plus amis depuis.
D'accord.
C'est des choses qui arrivent. C'est pas lié à ça du tout, hein. C'est... parce qu'elles sont décédées.
Parce qu'un serial killer les a tuées dans une maison dans les bois. C'est une histoire bizarre.
Non, c'est juste qu'il y a des amitiés qui marchent pas. On vit des événements traumatisants et on n'arrive pas à s'en remettre. Bon. Donc non, on n'en a pas reparlé. Enfin, on en a reparlé quelques jours ou quelques semaines après. Et on est parti du principe que c'était juste une blague. C'est non sur la paroi de la douche, qu'on ne sait pas de qui, pourquoi, comment, mais c'était une blague. Et que tout le reste, c'était juste des coïncidences qui ont fait que nos esprits se sont un peu affaiblis. On est un peu passé en mode primaire. Et on a tout vu à travers le prisme de l'horreur et de la trouille, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Même s'il y a quand même une porte qui s'est ouverte toute seule en jeu. Mais ça, j'attends toujours qu'on me le rationalise. Peut-être que j'ai soufflé très fort, je ne sais pas.
Et des bruits dans la cuisine, ne les oublions pas.
Ça, voilà, toujours pas. Moi, je ne m'explique pas du tout cette histoire-là. Je sais juste que j'ai eu vraiment extrêmement peur et que j'ai passé toute ma vie à me dire « Je me demande ce que ça ferait de vivre dans un film d'horreur » et que j'ai plus du tout envie de savoir. Parce que juste là, ce tout petit aperçu-là, je... Non. Non.
On peut comprendre.
Voilà.
Parmi les autres hypothèses, tu avais parlé du frère,
ouais,
potentiellement, qui était donc le frère d'une de tes deux ex-amies.
Voilà,
coup,
c'est ça.
Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, elle va te recontacter en disant « Écoute, je savais que c'était mon frère, une de tes deux amies. » Elle va dire « Écoute, je ne l'ai pas osé te dire parce qu'on a été vraiment flippés, mais genre dans 10 ans, c'est un truc comme ça. » Et qu'elle va te dire « En fait, c'était moi. »
Alors,
enfin, mon frère.
D'une, je pense qu'elle ne va pas me recontacter du tout. Pour ça ou pour autre chose.
Pour s'excuser.
Voilà. Non. Bref. Et de deux, je pense qu'en vrai, je suis la seule à encore penser à cette histoire-là.
D'accord.
Parce que c'est vraiment un truc sur lequel je suis une fixette de base, que c'était pas du tout leur délire, et elle regarde pas de films d'horreur, elle s'intéresse pas aux légendes urbaines, tout ça, ça les intéresse pas. Donc je pense qu'elles, elles ont même oublié que c'était arrivé, et qu'elles ont dû se dire que c'était moi qui avais fait la blague. Parce que c'est l'hypothèse la plus simple, vu que je suis justement celle qui a jarté du groupe, donc on peut pas vérifier. Et puis que c'était bien mon genre, effectivement. Je ne leur en veux pas de m'avoir soupçonné.
Taous, merci de nous avoir raconté l'histoire aujourd'hui.
Ouais, merci beaucoup.
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont eu un petit peu peur.
J'ai entendu
des petits dans la salle. Donc on va maintenant accueillir notre deuxième invité.
Le plus nul. Allez.
Oui.
Au revoir.
La sentence est irrévocable. On applaudit Jack Parker. Alors, notre deuxième invité, les amateurs de récits étranges le connaissent sans doute, pour avoir déjà animé les excellentes histoires de minuit à la nuit originale. Mais c'est aussi, et je dirais même surtout, un auteur et dessinateur de bande dessinée incontournable. Ses albums Notes ont envahi les rayons de la FNAC depuis bien longtemps. Et il a sa nouvelle série, Bolshoï Arena, qui vient de sortir en collaboration avec le dessinateur Asen. Cet invité, c'est évidemment Boulet. Ça va ?
Oui, bonsoir, ouais, je fais des bisous au micro.
Tu fais des bisous, tu peux mettre le casque si tu veux,
tiens.
Ou tu peux en mettre qu'un sur deux aussi, c'est comme libre. Moi, comme ça t'entends aussi le public et tout, c'est...
J'aime mieux, ça fait radio.
Ouais, c'est le podcast, ça fait radio, voilà. Mais ça n'en est pas. Alors, salut Boulet, on est ravis de te recevoir aujourd'hui dans le Bureau des Mystères. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une histoire que tu as racontée déjà à plusieurs reprises. Tu en as même fait une petite BD pour la belle revue Carbone.
Je l'ai raconté en plusieurs petits bouts, effectivement. Ouais. Je l'ai raconté un petit peu à la nuit originale et un petit peu en bande dessinée et un petit peu sur Twitter.
Et tu vas aujourd'hui nous en dire un peu plus, puisque de nouveaux événements se sont rajoutés.
Voilà.
Alors, avant qu'on commence à rentrer dans le dur de l'histoire, est-ce que tu as pensé à un titre pour cette histoire ?
Ah, le titre, j'avais oublié. Ok. Le mystère de la maison bourguignonne qui avait l'air hantée, mais les fantômes n'existent pas et c'était probablement une suite de coïncidences amusantes. Hante.
Parfait.
Okay. Bah, cette histoire s'est déroulée sur plusieurs années, mais on va commencer par le début.
Alors le début, oui, il y a plusieurs débuts.
Ton enfance.
Oui, mon enfance. Non, c'est une histoire qui est un petit peu, qui est un petit peu sur deux axes différents. Le début, l'enfance, c'est que mes grands-parents avaient cette vieille maison bourgeoise en Côte d'Or. Et cette maison avait la réputation d'être hantée. On nous racontait quand on était enfant que l'ancienne propriétaire, 100 ans auparavant, s'était découverte trompée par son mari et que pour le punir et de désespoir, elle s'était empoisonnée elle-même à l'arsenic et que dans la chambre que désormais nous appelions la chambre du fantôme, elle avait passé 3 jours à agoniser, paralysée des jambes, en hurlant de douleur et qu'elle avait fini par y mourir. Et depuis, la maison a la réputation d'être hantée par le fantôme de cette dame.
D'accord, donc c'est une histoire horrible, mais elle s'est empoisonnée pour punir son mari.
Elle s'est empoisonnée juste parce qu'elle voulait se suicider et lui foutre un peu le seum, j'imagine, par cette action.
Autre époque.
Voilà, autre époque, autre temps, autre mœurs, on n'est pas là pour juger. Mais donc voilà, c'était la légende de base. Qui circulait dans la famille. Moi, j'étais un peu un gamin trouillard, j'avais peur des fantômes. Mon père n'arrêtait pas de me répéter, les fantômes n'existent pas. Et un jour, il m'a dit, bah, viens, on va aller dormir dans la chambre du fantôme, comme ça, au moins, tu sauras qu'il ne se passera rien. Et le lendemain matin, il m'a dit, alors tu vois, il ne s'est rien passé, on a dormi dans la chambre du fantôme. Et je lui aurais répondu, moi, je ne m'en souviens pas, parce que je devais avoir 4-5 ans, et je lui aurais répondu, non, elle est venue me voir cette nuit, en fait, elle est gentille. Mais moi, là, sincèrement, j'en ai aucun souvenir. C'est mon père qui m'a raconté ça.
Vas-y.
Ah, tu veux que j'enchaîne?
Alors,
voilà.
On est si bien parti.
Alors, voilà, il y a deux histoires parallèles, comme je vous disais, c'est-à-dire, en gros, si on parle de comment on dit, hantage, hantement, hantation, hantise, hantise. Il y a deux hantises différentes. J'ai l'impression que hantise, c'est autre chose. Non, je pense qu'on n'a pas le bon mot. Mais aux alentours de mes 16-17 ans, je dormais dans la chambre voisine de la chambre du fantôme, et je me réveille un matin, et vraiment, vrai réveil, donc j'ouvre les yeux, j'entends les bruits de la maison, je vois le soleil qui passe par la fenêtre, je suis vraiment dans cette chambre qu'on appelle la chambre jaune, parce qu'on aime bien donner des noms inquiétants aux chambres dans cette maison, et je sens une présence dans la pièce, et je sens que quelqu'un est assis sur mon lit, et vraiment, et j'essaye de bouger, je sens cette présence assise sur moi comme ça, et j'arrive à baisser les yeux et je vois une petite fille qui porte une sorte de collerette en dentelle, qui a sagement les mains sur les genoux comme ça, et des anglaises, et qui me regarde fixement. Et moi, bon, alors, spoiler, hein, on a tous entendu parler de la paralysie du sommeil, mais moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me rends compte que je suis paralysé, que je ne peux absolument pas bouger.
Tu as le sentiment de te réveiller, en fait.
Bah, j'étais réveillé. Le truc de la paralysie du sommeil, c'est que tu es réveillé, mais que tu continues à rêver, en quelque sorte. Et moi, je n'étais pas spécialement effrayé par cette gamine, parce que bah, voilà, je suis quand même un gros costaud, et puis, si. Et la gamine, je veux dire, elle était haute comme ça, je lui colle une patate, il n'y a pas de problème. Mais je me demandais ce qu'elle foutait là, quoi. Donc je lui dis, enfin, j'essaye de le dire, parce que ça ne sort pas, donc j'essaye d'insister, j'arrive pas. Et finalement, ça finit par sortir. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et puis là, je me rends compte que je suis tout seul dans la pièce et qu'il n'y a jamais eu de gamine. En fait, c'était très bizarre. Elle n'a pas disparu comme dans un. C'était pas un effet spécial, quoi. Elle n'a pas disparu. C'était juste.
T'as cligné les yeux.
C'est vraiment comme si je me réveillais, là, pour le coup. Mais c'était exactement le même contexte, moins une gamine bizarre. Et donc voilà, évidemment, sur le coup, j'ai eu super peur. Après, bon, on pourra y revenir plus tard, mais j'ai entendu parler de la paralysie du sommeil et je me dis que ça devait être ça. Mais voilà, il y avait eu cette histoire avec la gamine. 2-3 ans plus tard, mes petits frères viennent avec un ami chez mes grands-parents, passer quelques temps pendant les vacances, et on dit qu'on va tous dormir dans la même chambre, donc la chambre du fantôme, et on a des lits partout comme ça, et on dort. Le copain en question n'a jamais entendu parler de cette histoire, évidemment, on l'amène dans la maison pour la première fois, et on n'a pas forcément le réflexe de parler du fantôme, c'est une légende familiale, mais quand on amène des gens là, on leur dit pas, vous allez voir, il y a un fantôme. Et donc voilà, on se couche. Et au milieu de la nuit, des hurlements, mais vraiment à glacer le sang. Tout le monde se réveille en sursaut dans la pièce, donc mes deux petits frères et moi. Et on voit leur ami qui est en train de se tordre sur le lit en faisant des grands gestes avec les bras. Un peu ridicule à mon avis. Et donc on le réveille. Et là, il est vraiment très très pâle. Il a les yeux écarquillés comme ça. Et on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai fait un cauchemar. Donc on est un petit peu rassuré et tout. Puis, et on lui dit, c'était quoi ton cauchemar? Et là, il nous dit « J'ai rêvé qu'il y avait une vieille dame qui était penchée au-dessus de moi et qui m'agrippait en me disant « Rends-moi mes jambes, rends-moi mes jambes ». Je rappelle le début de l'histoire où la dame avait passé 3 jours paralysée des jambes dans son lit avant de mourir. Donc nous, on ne faisait pas les fiers, on était un peu pâles. Et c'est devenu... Et quand on l'a raconté, évidemment, au gamin en question, là, il était en panique totale. Il était persuadé d'avoir vraiment vu le fantôme et il n'était pas bien. mais bon, voilà, les vacances se sont prolongées comme elles font souvent, etc., sans autres interventions paranormales pour le moment. Et vraiment, cette histoire est rentrée un peu dans la légende familiale et on n'y a plus vraiment pensé.
J'avais une question à te poser là-dessus. Est-ce qu'il y a juste cet ami de la famille qui a vu le fantôme ou est-ce que d'autres personnes ont entendu cette histoire de femme qui demande ses jambes?
Personne n'a été aussi détaillé dans le récit. Mais on a eu des récits comme ça, des trucs assez marrants, quoi, de ma grand-tante qui disait qu'elle, régulièrement, elle avait déjà eu l'impression de voir quelqu'un ou d'entendre des bruits, mais elle ne croyait pas elle-même, elle disait ça en rigolant. « Ah, moi j'ai entendu des bruits l'autre jour. » Une fois, c'était moi, les bruits. J'avais un Amiga et j'étais en train de jouer avec un générateur de son, là. Et c'était un truc, un synthétiseur vocal, tu tapes des mots. Et puis j'avais entendu ma grande-tante descendre et alors j'étais avec mon ordinateur et je tapais sur l'ordinateur « Tu vas mourir bientôt !» Et puis alors il faut imaginer un Amiga 500 faire le bruit, ça faisait « Ah, 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 tu vas mourir bientôt !» Et ma grande-tante au bout du couloir faisait « Y'a quelqu'un ?»«
Ton âme est damnée !»
Et puis elle était là « Ça doit être le fantôme !» Et puis elle partait. Donc je sais qu'au moins une fois, quand elle a entendu le fantôme, c'était moi. Les autres fois, je sais pas.
Très très belle imitation d'Amiga, au passage.
Ah oui, très fort en Amiga 500, mais c'est une imitation qui tend à perdre de son utilité en société. Mais donc voilà, ça c'était, alors on a eu aussi d'autres histoires comme ça. À un moment on était autour du feu comme ça en train de parler avec ma cousine, mes frères et sœurs et puis on disait bah moi à chaque fois que je fais des cauchemars ça se passe toujours dans cette maison, ou à chaque fois que je viens ici je fais des cauchemars, etc. Et on avait tous comme ça des histoires où visiblement cette maison était le centre. C'était pas le centre de nos cauchemars parce que c'est vraiment une maison qu'on adore et où on adore passer du temps, mais c'est comme si dès qu'on faisait un cauchemar il se passait forcément là-bas. Et donc c'est assez marrant. Et puis à un moment ma tante arrive et dit ah, de quoi vous parlez? Puis on dit ah, bah, des cauchemars qu'on fait à cause de la maison qui est un peu inquiétante. Elle fait ah bah moi c'est pareil, depuis que je suis petite j'étais cauchemar et ça se passe toujours ici, enfin. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous comme ça ce point central de nos cauchemars qui était la maison. Et voilà, après vous voulez les rebondissements finaux?
Ah oui, évidemment. Ça c'est un truc qui, voilà. À la rigueur, quand ça reste dans le domaine de l'enfance ou de l'adolescence, voilà, moi j'étais pas rassuré, on va pas se mentir, mais ça passait encore. Et c'est quand tu as commencé à raconter qu'il se passait des choses, même à l'âge adulte, ou des phénomènes bizarres dans la maison. Parce que là, tu te dis, on est adulte, on est plus rationnel, ça va mieux se passer, on est peut-être un petit peu moins impressionnable, et pourtant, il se passe quand même des choses. C'est ça qui m'avait fasciné aussi.
Ah bah, ça, c'était assez drôle. Effectivement, là, c'était l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus exactement, mais je suis mauvais avec les dates. Mais je suis allé dans cette maison pour une réunion de famille et j'étais avec ma cousine et on parlait comme ça de tous les trucs qui nous faisaient peur dans cette maison. On venait de raconter l'histoire du fantôme, on parlait des horribles poupées de porcelaine de ma tante. Ma tante a une collection de poupées de porcelaine, mais du genre, tu les prends individuellement, chacune fait fuir Chucky en hurlant, quoi. C'est vraiment, c'est des poupées de porcelaine, tout ce que t'imagines de plus dégueulasse, avec de la peinture écaillée dessus, et il y en a une à laquelle il manque un œil et qui a le cou qui fait un angle à 45 degrés. Enfin, tu vois, elles sont toutes terrifiantes, ces poupées.
On est sur une maison pas très rassurante.
Dans une maison pas très rassurante. Donc voilà, ça nous faisait beaucoup rire, et on était en train de parler comme ça des fantômes de la maison. Et là, on entrait dans une pièce au moment où on parlait de ça, et puis moi, vraiment, je dis, mais enfin bon. Je sais que ma cousine est un peu superstitieuse, alors je lui dis, mais bon, aussi, il faut arrêter les conneries, quoi. On sait très bien que c'est juste nous qui racontons ça, c'est des légendes, quoi. Et au moment où je prononce le mot légende, il y a un vase qui explose dans la pièce. Et vraiment, il n'est pas tombé, il n'a pas été bousculé par un courant d'air, il a vraiment fait pling comme ça, et il est tombé en 1000 morceaux. Mais sur place, c'était comme dans Tintin, comme dans l'affaire Tournesol, quoi. C'est vraiment, le truc est tombé en miettes devant nos yeux. Et là, ma cousine, elle a écarquillé les yeux, elle était terrifiée. Et moi, ça m'a fait un peu marrer, quoi. Mais bon, c'est quand même, t'es là, ah, c'est amusant comme coïncidence. Je vais aller changer de sous-vêtements pour une autre raison.
Il y avait des choses dans ce vase ou c'était
Ah non, c'était juste un vase vide. Alors après, moi, j'ai évidemment des explications tout à fait rationnelles pour ce phénomène, mais...
Surtout qu'on voulait savoir, parce qu'on sait que t'as quand même quelqu'un de plutôt sceptique, rationnel, sur ce genre de choses.
Moi, je crois pas du tout aux fantômes, encore une fois. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Il y avait 5 ou 6 gamins qui jouaient dehors dans les graviers avec des vélos. Donc, tu vois, un gravier qui part et puis qui pète le vase. La maison avait été fermée tout l'hiver. Là, on venait d'ouvrir toutes les fenêtres en grand. Il y avait un bon gros rayon de soleil sur le vase. Toi, je me dis.
Ça me semble assez probable.
Voilà, toi. Et puis, c'est un vieux vase, tu vois. Tout dans cette maison est un peu vieux et tombe en morceaux. Ben voilà, il y a des. C'était marrant que ça se casse à ce moment-là, mais ça serait arrivé à un moment ou un autre.
Comment t'expliques l'autre truc
L'autre truc qui était assez marrant, c'est le dernier en date. Donc là, pour le coup, ça date de cet été.
Oui, parce qu'on rappelle que c'est un truc qui se passe quand même régulièrement. Il y a souvent des choses dans les maisons.
Régulièrement, si. Une fois tous les 10 ans, compte comme régulier, oui, si tu veux.
Mais... c'est régulier. Le clown de ça, il est régulier.
Ouais, c'est ça. Le dernier truc en date, c'était ce qui était assez marrant, c'était je suis allé à nouveau dans cette maison pour encore une fête de famille. Et moi, j'adore revisiter la maison, puisque maintenant, j'y habite plus et j'y vais plus vraiment en vacances. Donc, c'est vraiment un souvenir d'enfance et j'aime bien voir comment elle change maintenant des cousins qui s'y sont installés, qui retapent et tout. Donc, je vais refaire le tour des chambres. Et j'étais avec mes neveux, ma nièce, enfin, mon neveu et ma nièce qui ont 14 et 11 ans. Et je leur montrais. Alors là, tu vois, tu te souviens de la BD que j'avais fait avec la petite fille fantôme ? C'était dans cette pièce, donc dans la chambre jaune, etc. Et puis elle me dit, ah mais tu crois aux fantômes ? Et je lui explique, mais non, tu sais, il y a la paralysie du sommeil. C'est un peu, tu vois, c'est comme si on avait un bouton dans le cerveau qui fait qu'on est endormi ou réveillé. Quand le bouton est bloqué dans un sens, on rêve et on dort, mais on continue à marcher parce que notre corps oublie qu'il doit être paralysé. Ça, c'est le somnambulisme. Et l'inverse, quand le petit bouton est coincé dans l'autre sens, c'est que tu es réveillé, mais ton corps oublie qu'il doit arrêter de rêver. Et ça te crée des hallucinations. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, parce que tu es paralysé par le sommeil et tu es pourtant réveillé. Enfin, j'essaie d'être un peu pédagogue comme ça et de lui expliquer ça. Elle dit, donc toi, tu crois pas du tout aux fantômes. Et moi, je dis, la petite fille, j'y crois pas une seconde, quoi. C'était une paralysie du sommeil. À ce moment-là, il y a une voix qui résonne dans la pièce et qui dit « Allez vers l'ouest ». Et alors moi, je sens que la voix venait de ma poche. Je sors mon téléphone. C'était mon GPS qui s'était mis en route. Donc là, sur le coup, évidemment, ma nièce, elle était comme ça. C'est pas très radiophonique, mais imaginez-moi très raide avec les yeux écarquillés. Et donc, on rigole et on commence à sortir de la pièce. Et puis, elle dit « Peut-être que le fantôme était à l'ouest ». Et je dis, écoute, si tu veux, on vérifie. Et là, je sors le téléphone et je vois, là, il y a la petite boussole du GPS. Et je m'oriente vers l'ouest et je fais 2 pas vers un mur. Et sur le mur, il y avait le portrait d'une petite fille en robe d'époque avec une petite collerette à dentelle et les mains croisées sur les genoux.
Et ça, pas d'explication.
J'ai une très bonne explication. C'est que après, moi, je me suis intéressé de plus près justement au dessin. Tu sais, je l'ai décroché du mur, j'ai regardé derrière et tout. Enfin, j'étais un peu curieux, quoi. Et en fait, déjà, ce dessin, il a 1000 ans, quoi. Enfin, tu vois, il devait être dans la maison à l'époque où j'ai fait ma paralysie du sommeil. Si ça se trouve, tu vois, c'était un truc inconscient que j'avais vu du coin de l'œil. Et j'avais pas réalisé, et du coup, mon hallucination était en quelque sorte basée sur ce dessin, ce qui me paraît le plus probable. Et j'ai regardé ce dessin, c'est même pas le portrait d'une petite fille qui existe, c'est du genre les espèces de trucs qui devaient être reproduits à 200 exemplaires, et avec marqué en dessous l'enfance, tu sais, avec une jolie typo. Tu vois, si j'avais fait une paralysie du sommeil où j'avais vu Sangoku et que après j'étais tombé sur un poster de Sangoku, je me serais pas dit putain Dragon Ball c'est vrai quoi.
ça aurait été nettement plus drôle.
Mais c'est ça, les histoires de fantômes, c'est souvent un narratif qu'on se fait soi-même. Et puis, mais je pense qu'inconsciemment, on n'y croit pas, quoi. Enfin, on sait très bien que c'est pas vrai, quoi.
Puis d'ailleurs, on te le fait raconter comme une seule et même histoire.
Oui.
Alors que finalement, c'est ce lien narratif qui fait que.
C'est ça. C'est la façon dont on raconte l'histoire qui crée le lien. Mmh. Donc voilà, moi ça me fait beaucoup rire les histoires de fantômes parce que je me dis toujours comment je me comporterais dans un film d'horreur. Et puis quand on écoute Taous, on voit on fait n'importe quoi comme dans les films d'horreur. C'est d'être genre, j'ai vu une silhouette derrière la porte, après je suis allé dormir. Pour ceux qui n'ont pas l'image, elle me fait un fuck de
un
loin.
Un doigt, ouais, je vois le doigt se lever, en effet. Et du coup, j'avais une question quand même. Alors, tu as en partie répondu, mais en tant que dessinateur, créateur, finalement, ça te nourrit aussi ce genre de truc-là. Est-ce que tu peux, enfin, de quelle manière, hors la BD spécifiquement qui en parle, de quelle manière tu intègres
je suis toujours fasciné par la gravité au sens physique, le fait de tomber, la gravité des histoires. C'était un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Terry Pratchett, qui disait que les histoires ont comme ça une force d'attraction. C'est une histoire, c'est comme un sillon qu'on trace dans l'imaginaire de quelqu'un, et on a tendance à retomber toujours dans le même sillon et à suivre l'histoire, et en la rendant à chaque fois en plus un peu plus profonde, et donc un peu plus facile à tomber dedans. Et pour moi, ces narratifs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'exemple que je prends souvent, c'est que si tu vas dans une classe avec des enfants et que tu leur dis il y a une petite fille qui se promène dans la forêt, qu'est-ce qui se passe après? Tu vas avoir 99% des enfants qui vont dire elle croise un loup. Parce que dans notre esprit, on a intégré le fait que quand une petite fille marche dans la forêt, elle rencontre un loup. Et ben, je pense que les histoires de fantômes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès qu'on entend un bruit bizarre dans une maison, on se dit pas c'est le chien, on se dit pas c'est le vent, on se dit pas c'est un voisin qui est rentré en douce, on se dit c'est un fantôme parce que la maison est là, parce qu'elle est inquiétante. Je peux reprendre un exemple que j'ai déjà donné dans La Nuit Originale, qui est une expérience qui avait été menée par un illusionniste qui s'appelle Richard Wiseman, qui est un Anglais, mais on lui pardonne. Et il avait fait une expérience où il faisait venir des gens dans une maison, et il leur expliquait, c'est une expérience sociale, donc on veut juste voir comment vous allez vous entendre les uns avec les autres. Donc vivez normalement, buvez des coups, parlez aux gens, et puis vous nous dites comment ça s'est passé. Et le lendemain, les gens disaient, machin, il était un peu relou, truc, elle est hyper sympa, j'ai gardé son numéro, on va essayer de se revoir, et tout. Et tout se passait très bien. Et après, il faisait venir un autre groupe en leur disant, dans cette maison, il y a eu une série de crimes atroces. Un homme a massacré sa famille, on vient de finir d'éponger le sang, et maintenant on n'arrive plus à vendre la maison parce que les gens prétendent qu'elle est hantée. Donc nous, on veut tester sur des gens objectifs, donc vous allez passer la nuit là et vous nous dites si vous avez senti des choses étranges. Et évidemment, le lendemain, tout le monde était là. Cette nuit, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, j'ai entendu des bruits bizarres, il y a eu un moment une porte qui a claqué, et dès le moment où on leur avait mis ce sillon dans la tête, le narratif du fantôme, tout devenait le fantôme, quoi. Le fantôme, c'est ça, c'est un panier garni, on fout tout ce qu'on comprend pas, dans cette explication unique. Donc voilà.
Écoute, est-ce que tu avais d'autres questions?
Non, moi j'avais pas d'autres questions, mais c'était très intéressant d'avoir cette conclusion.
Je pense qu'on peut applaudir et remercier Boulay.
Merci Boulay.
Alors, nous accueillons à présent notre dernière invitée du jour, et pas des moindres. Elle a fait ses armes chez Mademoiselle et a aujourd'hui pris son indépendance en quelque sorte en se lançant dans le monde des podcasts. Elle est d'ailleurs nommée au prix SCAM du podcast documentaire et au prix Audible du public ici même au Paris Podcast Festival pour son podcast La délicatesse du gangbang. Vous avez peut-être déjà écouté son émission aussi drôle qu'instructive Qui m'a filé la chlamydia chez Nouvelles Écoutes. Elle propose également des contenus toujours originaux et intéressants sur sa chaîne perso, donc sa chaîne de podcast. Cette invitée, c'est Anouk Perry, et elle a des histoires très étranges à nous raconter.
Salut Anouk.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Ouais.
Je vais commencer par un petit préambule, je l'ai déjà dit dans cette émission à plusieurs reprises, je ne crois pas spécialement au surnaturel, mais je n'ai jamais voulu prendre de risques, parce que je suis quand même une petite flippette, et c'est pour cette raison que même si le concept est plutôt séduisant, je ne me suis jamais laissé tenter par la planche Ouija, mais Anouk Perry ici présente l'a fait,
elle est
et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui.
Ouais. Ok, est-ce que c'est le moment où je dois faire le titre qui fait peur?
Voilà, tu dois trouver un titre.
Ouais, je l'ai. Le spiritisme qui tue.
C'est très bien résumé. Alors, cette séance de spiritisme, tu avais 16 ans à l'époque, si je me souviens bien, c'est bien ça ?
17 ans.
Ouais. 17 ans. Et comme beaucoup d'adolescents à cet âge-là, tu as voulu faire une séance de spiritisme et tu as participé à une séance qui a très très mal tourné.
Exactement. Bon, alors pour remettre le contexte, ça s'est passé dans une colonie de vacances où les moniteurs, pour se mettre un peu les ados dans leur poche, nous avaient dit « on va faire une soirée spiritisme tous ensemble ».
C'est la bonne idée.
Moi, jusque-là, j'étais comme toi, c'est-à-dire que ça me faisait peur, du coup, je voulais pas le faire. Et là, je me suis dit « si c'est les animateurs qui préparent ça, let's go, quoi ». Et c'est comme ça qu'un soir, on s'est retrouvés 10 jeunes de 15-17 ans, dans une pièce de la colo, et avec une planche de Ouija sur le sol, et l'animatrice qui était pétée de rire parce qu'il ne croyait pas du tout. Elle commençait à nous dire « Ok, vous fermez les yeux, pensez à un être cher, l'être cher va vous tenir la main. » Mais on l'entendait se marrer hein, parce qu'elle y croyait absolument pas. Donc voilà, et puis après on est 5 ou 6 à mettre nos doigts sur un verre et à dire « Esprit, es-tu là ?» Et ça marche absolument pas.
Évidemment.
Évidemment. Donc bon, on commence à se marrer, à bouger le verre pour faire « C'est Hitler ». Enfin voilà, bon. Mais voilà, entre nous, bon, ça commence comme ça.
Il y a toujours
voilà.
Hitler quelque part, toujours. Quand il y a peut-être... le spiritisme.
Au bout d'une demi-heure comme ça, il y a un des gamins de la colo qui dit « Non, non, mais faisons-le sérieusement, je vais diriger la séance ». Donc, ok, l'animatrice juste elle reste dans un coin et ferme, voilà. Puis il recommence en disant, fermez les yeux, pensez à un être cher, appelez-le tour à tour. Donc moi, enfin, je sais pas, il y a machin qui dit, je veux parler à machin mon grand-père. Moi, je dis, je veux parler à machine ma grand-mère. Et je sais pas comment dire, mais il y a un petit truc qui change. Et là, on entend un... au bout de la pièce. Et là, tout le monde s'est levé et a couru pour sortir.
Comme
oui, tout le monde, mais du coup, donc t'as 10 ados qui se lèvent et qui courent. Bon, il y a l'animatrice qui est en mode, bon, bah, c'était juste un bruit. Enfin, bon, on était au milieu de nulle part dans un bois. Enfin, le camp était au milieu de nulle part dans un bois, ça arrive d'entendre des bruits. Bon, on se rassoit, elle nous dit, arrêtez, calmez-vous. Enfin, c'est bon, c'est juste une fausse séance de spiritisme. Et là, quand on revient, on voit que sur la planche, il y a 2 lettres qui ont été écorchées, qui sont les initiales de ma grand-mère. Et je commence à dire, c'est les initiales de ma grand-mère, est-ce que c'était là avant? Tout le monde dit, bah non, c'était pas comme ça avant. Bon, on se dit, bah c'est peut-être que ta grand-mère nous a fait un coucou. Donc,
c'est les personnes à qui tu pensais quand tu...
Ouais, je pensais à ma grand-mère, moi, depuis le début. Donc, on refait le truc, il y a l'ado qui dit, vous fermez les yeux, bon, est-ce que c'est la grand-mère d'Anouk qui est là? Donc, le verre semble se bouger alors qu'on est 5 dessus vers le oui. Donc, on commence à tous un peu flipper. Je commence à dire, est-ce que ça va bien? Oui, il faut savoir que ma grand-mère est espagnole, argentine. Du coup, je lui dis, est-ce que tu voudrais que je parle en espagnol? Ça fait oui. Donc bon, pourquoi pas, mais bon, ça va beaucoup sur le oui. Je commence à demander, est-ce que ça va bien? Est-ce que dans l'au-delà, tout va bien? Est-ce qu'il y a un message à délivrer à mon père, donc son fils? Et là, ça fait non. Mais vraiment très vite. Et juste après, je dis, est-ce que je peux parler de cet échange à mon père? Et là, ça fait non.
Immédiatement.
Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait extrêmement flipper ce moment-là.
Oh bah on sait pas pourquoi, non, on a pas d'indice.
Il faut se dire qu'on était, ouais, vraiment, on était tous ultra flippés à se dire c'est qui a bougé le verre. Et enfin, clairement, c'est pas comme tout à l'heure, on bougeait le verre pour s'amuser, là ça a vraiment bougé. Et il y avait des bougies autour, on s'est dit non, on arrête là, on éteint les bougies, on rallume la lumière et on fait une soirée normale. On arrête de faire du spiritisme, quoi, c'est pas drôle.
J'imagine que vous avez dû passer une super soirée après
ouais,
ça.
Ouais, non, c'était horrible.
Vous avez maté Borat, du coup, ou pas?
Non.
Les Kaïra,
mais après ça, on a rejoint les autres jeunes de la colo parce qu'il y avait eu plusieurs veillées en parallèle et on leur a dit, oh, il s'est passé ça, nous, qu'elle a parlé à sa grand-mère, le fantôme veut pas qu'elle parle de... Donc, je n'ai pas le droit d'en parler à mon père. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à en parler, parce que j'avais très peur. Parce que, voilà.
De la vengeance du fantôme.
De la vengeance du fantôme. Et du coup, bon... Finalement, on va se coucher, et bien sûr, quand je me couche, je me réveille au milieu de la nuit, et je vois ma grand-mère au pied de mon lit. Donc, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je finis par me rendormir, puis je me réveille et je la revois au pied de mon lit. Et voilà, j'ai très très peur. À un moment, je vais aux toilettes.
Tu as essayé de bouger? Tu as essayé de...
Oui, non, mais je pense que c'était... Je la voyais une demi-seconde, puis je regardais bien, et je voyais que non.
D'accord.
Il y a des explications qui viendront après. Là, je raconte la version qui fait très très peur.
C'est bien, il commence bien.
Et du coup, voilà, non, j'ai peur. Et le lendemain, on part en activité le matin. Et quand je reviens en fin de matinée dans ma chambre, j'avais déjà un portable à 17 ans, ce qui n'est pas inhabituel non plus. Et je vois qu'il y a un message de ma mère qui me dit « Anouk, ta grande-tante est morte cette nuit. » La sœur de... La grand-mère qui est morte,
ouais.
Que j'avais tenté de joindre la veille. Bon, il faut prendre en compte que c'était une grand-tante assez âgée qui avait déjà fait des malaises et qui est morte de sa belle mort dans une crise cardiaque pendant la nuit. Mais après ça, je me suis dit, ok, plus jamais. Et puis voilà, et puis après ça, en fait, comme disait Boulet, en fait, t'es tellement dans un truc où tu imagines tout voir, que je voyais des lumières s'allumer, je voyais des portes... J'avais l'impression d'entendre des portes claquer au loin. Je me disais, ok, on est hanté, j'aurais jamais dû faire ça. Peut-être que c'est moi qui ai provoqué la mort de ma grande-tante.
Tu as culpabilisé?
Non.
Non, d'accord, ok.
Non, non, mais parce que j'essayais de me raisonner. Et puis oui. Même cette séance de spiritisme, bon, je suis pas trop sûre qu'elle valait quelque chose.
Et c'est ce que mais je voulais te demander, peu... avec le recul que tu as aujourd'hui, tu penses que tu as vraiment vécu une expérience paranormale ou tu as trouvé des facteurs qui peuvent expliquer un petit peu ce qui s'est passé?
Oui, il y a des facteurs. Par exemple, le gros bruit qu'on a entendu au début, en fait, c'était d'autres ados du centre qui savaient qu'on allait faire une séance de spiritisme et qui se sont abusés à gratter le volet de la salle où on était.
C'est méchant. Donc, ça, c'est méchant.
Ça, c'est par exemple le premier facteur. Ensuite, bah, je sais pas, après, je sais pas, il y a un peu un côté, je pense, où on avait tellement envie que ça marche que peut-être tous ensemble, on a bougé le doigt en même temps pour faire les réponses les plus adéquates. Donc oui, bien sûr que ça va bien dans l'au-delà parce que c'est ça que j'ai envie d'entendre. Et peut-être qu'à un moment, je sais pas pourquoi, il y a eu un changement d'ambiance dans la pièce et c'est pour ça que ça a mis non. Je sais pas. J'y crois pas trop, honnêtement. Je pense qu'on était vraiment des ados impressionnables et qui avaient envie d'y croire et du coup qui avaient envie qu'il se passe des choses.
Vous vous connaissiez très bien d'ailleurs ou
C'était au bout de 2 semaines et demie de colonie de vacances. Donc, oui, quand on est ado en colo, c'est long, 2 semaines et demie, on se connaît bien. Et c'était avec des gens avec qui je m'entendais très bien. Et c'est d'ailleurs pendant tout le reste de la colo, tout le monde me disait « Putain, t'as parlé à ta grand-mère, c'est fort quand même ».
Ouais.
la star du spiritisme.
Ouais,
colo,
je leur disais « Ouais, après, ma grande tante est morte. Ah, ah, ah. »
C'est bon drôle.
J'adore. Enfin, on n'était pas particulièrement proches, tu vois, mais bon, quand même, c'est remarquable, quoi.
Oui, oui.
Mais est-ce qu'il y a quand même eu une crainte, parce que tu dis que tu n'y crois pas aujourd'hui à tout ça, mais que tu n'as quand même plus jamais touché une planche Ouija de ta vie, j'imagine?
Bah non, parce que on sait jamais, tu vois. Je me dis, est-ce que si par hasard j'aurais contribué à la mort de cette grande tante, ou peut-être que c'était juste la grand-mère venait me parler. Là, on parle en théorie totale, juste pour me signaler cette mort prochaine, peut-être. Hein. On peut aussi le prendre comme ça. Non, mais en fait, dans le doute, je préfère éviter d'y toucher. Et puis, c'est tout le genre de choses auxquelles je crois pas vraiment, mais ça me fait vraiment très peur. Parce que voilà, l'inexplicable est toujours un peu effrayant.
Tout à fait.
Surtout que tu y as été confronté plusieurs fois, c'était pas le seul truc. Ouais. Nous, quand on avait discuté, il y avait une autre histoire un petit peu de fantôme en quelque sorte, dont tu m'avais parlé, qui m'avait sur le coup fait plutôt peur, de ce fantôme qui murmurait ton nom dans ta chambre.
Mais ça, c'est la chambre. En fait, on a déménagé quand j'avais genre 9 ans, dans un nouvel appart avec mes parents. Et vers mes 14 ans, j'ai changé de chambre parce qu'un de mes frères est parti de la maison et du coup, j'ai récupéré sa chambre qui était plus grande et j'ai jamais été trop à l'aise dans cette chambre. Avec le recul, je pense que c'est juste du c'est pas feng shui, quoi. C'est juste, elle est faite un peu bizarrement, il y a le vent qui tape directement dessus, il y a toujours des bruits un peu étranges. Mais pendant assez longtemps dans cette chambre, très régulièrement, à chaque fois que je m'endormais, j'entendais un « Anouk ». Et à chaque fois, j'avais une petite crise cardiaque. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'au moment où on s'endort, on peut déjà avoir des hallucinations. Enfin, c'est un peu du même type que quand tu te sens tomber au moment où tu t'endors. Ouais, c'est exactement la même chose.
C'est souvent le cas quand on a des histoires de fantômes. On en a déjà fait plusieurs dans l'émission. Où en fait, au moment où les phénomènes se produisent souvent au moment de l'endormissement, au moment du réveil. On avait fait une histoire d'une femme qui pensait avoir eu des relations sexuelles avec un fantôme. Excellente émission que je vous conseille. une histoire fascinante. Et en fait, à chaque fois, ça se passait au moment de l'endormissement. Elle voyait ce fantôme arriver. Elle avait des rapports avec lui et ensuite elle s'endormait. Elle était sans doute déjà en train de rêver, en fait. C'est ça.
Peut-être. Non, c'est ce que je dis. Après, dans cette chambre, je sais pas, je crois que je t'avais parlé de l'histoire de l'ordinateur.
Oui, mais ça aussi.
Pendant assez longtemps, je me suis dit, c'est parce que j'aimais bien me dire ça, qu'il y avait une sorte de fantôme bienveillant sur moi. Parce que à l'époque, quand j'étais ado, j'avais un journal intime sur mon ordinateur et quand ça allait bien, tout allait bien. Mais quand ça allait mal et que je commençais à m'énerver sur l'ordi en disant « Ah, machin, il m'a fait ça, quel connard, et machine, c'est une traîtresse », et ben mon ordinateur s'éteignait. Enfin, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, ce qui est suffisamment de fois pour quand même remarquer que ça arrive quand ça arrive là, alors qu'il ne s'éteignait pas d'habitude. Et du coup, je perdais tout mon fichier pas sauvegardé.
Ouais, tu sais que sur un ordinateur à disque dur, si tu tapes trop fort dessus, ce sont des choses qui peuvent arriver.
Exactement, je pense que c'est tout à fait explicable. Mais j'aimais bien quand j'étais ado la romance du il y a un ange gardien, tu vois, qui bon, un truc comme ça. Bien sûr que je sais que c'est ultra explicable. Mais tout ce que je dis est ultra explicable, hein. Tu vois, enfin, la grande tante, elle était quand même bien vieille et elle avait déjà fait des arrêts cardiaques, donc c'est pas.
Mais ce qu'on fait dans le bureau des mystères, c'est aussi expliquer ce genre de choses. Donc
essaye d'expliquer au maximum en tout cas.
Écoute, tu avais d'autres questions, mais...
Absolument pas, on a fait tout le spectre, je crois.
Tout est bon. Très bien. Peut applaudir Anouk. Ah si, j'avais une dernière question.
Ah.
Du coup, Ouija, gangbang, entre les deux, c'est. T'as eu le.
Bah, pas de lien. Je viens pas vous parler de mon travail.
Non.
Votez pour elle.
Non,
c'est quoi la blague ratée d'Hugo.
Je voulais terminer sur ce mot-là, c'est tout. À toi.
Oui, c'est à moi de conclure, excusez-moi, oui. J'étais un petit peu perdu. Alors, vous connaissez les mots de la fin. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous, les invités, au fond de la salle, de nous avoir, d'être venus partager les histoires avec nous. Vous pouvez applaudir les invités encore une fois.
Ouais.
Merci aussi à Henri Michel, ici présent, de nous avoir beaucoup accompagnés dans cette émission. Ouais. On peut l'applaudir aussi. Merci à la technique aussi, et surtout merci à vous, ici à la Gaîté Lyrique, d'avoir été présent pour ce live. Ça nous fait vraiment plaisir. On ne pensait pas avoir autant de monde, et ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous ayez été là pour nous. Donc vous pouvez aussi vous applaudir vous-même.
Oui. Donc, le Bureau des Mystères est évidemment un podcast Rivière à Ferraille. Et du coup, à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page à nous tout d'abord,
Charles
et Mathias, sur Facebook, sur notre Twitter, @BDMlePodcast, ou sur le site de Rivière à Ferraille. On vous dit.
Ah oui,
j'applaudis pas tout seul.
Excusez-moi,
enfin.
Non. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et on vous souhaite surtout d'ici là de ne pas vivre d'expériences aussi inquiétantes que celles de nos invités du jour.
Ouais, c'est bon. Rebonjour à tous. On va passer à la session des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions pour Charles ou Mathias ? Levez la main et je viens vous donner le micro. Ah.
Salut.
Salut.
Bah du coup, je voulais vous demander, vous, est-ce que vous avez une histoire un peu étrange à raconter ou est-ce qu'il vous est arrivé des choses un petit peu bizarres ?
Alors, est-ce que tu veux répondre ou...
Vas-y.
Je réponds. Alors, non, justement, on nous avait posé la question quand on avait fait notre première FAQ du Bureau des Mystères. On nous avait demandé, c'était quelque chose qui était revenu pas mal, est-ce qu'on a vécu nous-mêmes des histoires étranges ? Le fait est que non. On n'a jamais été confronté à ça et c'est pour ça qu'on était très heureux de recevoir des gens déjà qu'on apprécie beaucoup et qui ont vécu ce genre de choses et qui sont venus nous le raconter aujourd'hui. Donc c'est toujours sympa d'avoir des témoignages de première main et ça pouvait pas être les nôtres vu qu'on n'en a pas vécu.
C'est aussi qui est marrant dans ce podcast, c'est que finalement à titre personnel, c'est ce qui fait aussi qu'on est peut-être sceptique ou autre, c'est que on n'a pas vécu particulièrement d'expériences paranormales.
Déjà, merci beaucoup déjà pour votre podcast.
De rien.
Parce que c'est merci d'être
venu.
Trop bien.
Merci.
Moi, j'avais une petite question par rapport à la documentation. Quand vous faites des recherches, vous faites principalement sur Internet. Vous allez voir des archives. Vous procédez comment par rapport à vos affaires?
Ça dépend de l'affaire en question. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se trouvent assez facilement sur Internet, des archives qui sont numérisées, que ce soit à la BNF ou autre. Il y a un tas d'institutions qui numérisent des archives. Il y a des tas d'articles de presse aussi qui traitent de ces sujets-là. Et en principe, c'est ce qu'on met en source pour que ce soit plus facilement accessible pour tout le monde. C'est des articles de presse. Mais donc, ouais, c'est finalement notre principal...
C'est à peu près ça. Moi, ouais. Il m'arrive aussi de regarder certains reportages, notamment de la National Geographic, quand j'avais fait l'affaire de Rupkund. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'histoire du lac aux squelettes en Inde. Il y avait un excellent documentaire de la National Geographic dessus, donc j'ai regardé ça, notamment pour l'épisode. Ouais.
D'accord. Merci.
Merci.
Bonjour. Merci aussi. Est-ce que vous avez traité pas mal de sujets dans je ne sais pas combien d'épisodes que vous avez fait
21 je crois.
21, voilà, oh, j'ai tous écouté. Hein. Est-ce qu'il y a certaines affaires quand même qui restent à un niveau de mystère, comme vous dites d'habitude, encore élevé? Est-ce que vous allez faire une sorte de veille, éventuellement s'il y a des nouveaux faits qui arrivent et qui peuvent conclure?
Alors déjà pour ce qui est de la veille, on en fait régulièrement et surtout grâce à vous. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a pas mal d'auditeurs qui nous envoient des fois des histoires. Le dernier numéro qui est sorti donc là vendredi, il y a l'affaire du Christ de Thionville. C'est une auditrice qui m'en avait parlé, qui nous l'avait envoyé sur Twitter. Donc on s'était renseigné un petit peu pour voir de quoi il ressortait sur cette histoire-là. Donc ouais, on fait cette veille-là et sur les histoires, sur la deuxième partie de la question, sur les histoires étranges qui n'ont toujours pas été élucidées. Toi Charles, t'en as eu une grosse.
Ouais, ouais. La dernière dans le dernier épisode justement, celle de Dan Cooper, le pirate de l'air, où en l'occurrence on a affaire à un monsieur qui en 71 a braqué un avion, lui a demandé de se poser 28 minutes plus tard à un aéroport, a pris de l'argent qu'on lui demandait, qu'il demandait, est reparti, a sauté. Il est reparti en direction de Mexico, il a demandé au pilote de partir en direction de Mexico et a sauté à un moment donné, on ne sait pas trop, on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su identifier cette personne parce que c'est une époque où on pouvait voyager de manière anonyme.
C'est une affaire qui est devenue extrêmement dense parce qu'elle est hyper connue aux États-Unis et il y a, je crois, à peu près 900 personnes, c'est ce que tu avais dit, qui ont déclaré être Dan Cooper depuis le début de l'affaire. Donc voilà, c'est assez balèze. Donc, en fait, le fait qu'il y ait énormément de gens qui disent l'être, en plus, ça ne fait qu'intensifier le mystère autour de l'affaire. Et l'autre grande affaire qu'on a eue qui reste mystérieuse, c'est Dyatlov, évidemment. Il y a pas mal de monde. Je crois que c'est l'émission, l'histoire qui avait le plus fait peur aux auditeurs, Dyatlov, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc sur ce groupe de randonneurs qui disparaît dans la montagne, celle-là reste aussi totalement irrésolue aujourd'hui.
Oui, avec des traces de radioactivité, des choses étranges.
Boulet nous fait signe que non.
Ah, Boulet,
tu veux venir ?
Tu veux apporter un élément de réponse ?
Tu parles de l'histoire des randonneurs russes là.
Tu étais pas mal intéressé aussi, je me souviens.
Oui, mais en fait, tu te rends aussi compte quand tu lis sur cette affaire qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés a posteriori, et que c'est très dur de démêler le vrai du faux. Il y a des articles qui disent qu'on les a retrouvés, qu'ils étaient tous orange. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils étaient hautement radioactifs. Mais a priori, il y a beaucoup de ces éléments qui sont complètement faux, quoi. Donc le coup de la radioactivité, par exemple, je crois que ça a été débunké. Et qu'il y a eu des histoires, ils étaient un peu radioactifs, mais pas plus que
pas des taux normalement élevés.
Des taux qu'on trouve dans la région, quoi.
D'accord.
Donc voilà, il y a comme ça quelquefois beaucoup d'affaires qui deviennent des légendes et qui sont montées en épingle, alors que là, il y a eu plusieurs explications tout à fait rationnelles qui ont été avancées pour ce phénomène-là. Notamment une avalanche ou fait que le grand froid peut donner aussi un sentiment de brûlure et que du coup ils auraient pu vouloir se débarrasser de leur couche de vêtements, etc. Donc enfin, il y a beaucoup d'éléments rationnels, mais effectivement, tant qu'on n'a pas l'explication valable, qu'on n'a pas l'explication définitive, on est toujours tenté de rajouter beaucoup de mystères dessus.
C'est ça. Mais c'est ça qui est mystérieux en fait avec cette histoire-là, c'est que en fait plusieurs petits éléments de l'affaire sont complètement explicables, mais c'est le problème, c'est l'affaire dans sa globalité qui reste étrange, quoi.
Voilà, ce qui manque, c'est la chronologie en
c'est
fait.
C'est ça, exactement. Ah, merci.
Pardon d'avoir interrompu. Désolé.
Oh, non, mais c'était super intéressant, merci.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais raconter que. Mon intérêt pour les histoires mystérieuses et creepy et faits divers comme ça me vient beaucoup justement des podcasts de Boulet, la nuit originale. Et j'ai commencé du coup avec Inspiré de faits réels. Et je voulais savoir justement vous d'où vient cet intérêt pour le mystère et à quel moment on passe d'un intérêt pour le mystère à il faut qu'on raconte ça sur internet.
Alors, ça vient de moi à la base. Donc avec Charles, on est tous les deux fans de cinéma d'horreur depuis très longtemps, depuis le lycée. Il y avait un truc que j'avais envie de voir. On regardait des films d'horreur avec la mention inspirée de faits réels. Et j'étais toujours curieux de savoir quelle était la vraie histoire qu'il y avait derrière et quelle était la relation entre la réalité et la fiction. Donc on en a parlé tous les deux, parce que c'était un sujet qui nous intéressait tous les deux. Et je t'ai proposé de faire le podcast. Et on l'a lancé vraiment avec deux bouts de ficelle au début. Et puis finalement, on a réussi à fédérer des gens, donc c'est plutôt cool. Donc merci. Et ensuite, voilà, avec Henri, maintenant, on fait le Bureau des Mystères. Et c'est vraiment une émission qui nous passionne à chaque fois qu'on enregistre un épisode, quoi.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, bravo. C'est vrai que vous êtes un bon binôme. Ça marche vraiment bien.
Merci,
c'est gentil.
On a tendance à oublier de le dire, mais il y a une bonne complémentarité. C'est plutôt cool. Je suis un peu comme tout le monde ici. Donc déjà, c'est cool que ça existe. Parce qu'on a tendance à ne pas penser que la culture, justement cette culture-là, qui est entre la lisière, entre l'investigation, le fantastique, le petit moment de frisson qu'on a tous eu en ce soir. C'est cool de pouvoir justement alimenter ça. Quelque chose qui est peut-être mal vu dans une culture franco-française, justement, le fantastique. Et en fait, moi, je pensais justement à votre avenir. Alors, dans un festival qui parle de podcast, ça va être très mal vu de dire oui, alors, tiens, le son, c'est bien. Mais qu'est-ce que demain ? Est-ce que vous avez des envies ? Est-ce qu'il y a des choses qui...
Le son, c'est bien, ça veut dire il y a la vidéo aussi ou ça...
Disons que... alors moi, je parle... Parce que moi, j'ai une petite boîte de production, tout ça, genre de trucs comme ça. Et c'est vrai que voir des initiatives comme ça, le côté un peu cross-format, transversal, en fait, tous les termes qu'on peut utiliser en ce moment pour dire d'être sur tous les fronts, sur tous les supports, est-ce que c'est quelque chose qui vous titille hein ?
Alors, à titre personnel, j'y ai pas trop pensé parce que je suis quelqu'un qui, à la base, écoute pas mal de radio. Et je suis assez passionné par la radio comme média. Enfin, je me lève, chaque fois que je prends mon petit déj, c'est avec la radio. J'écoute des podcasts et la radio dans les transports en commun. Et du coup, la vidéo, j'avoue que je suis pas... j'ai très, très, très peu de connaissances en vidéo. Très, très, très peu. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais auquel j'avais réfléchi jusque-là.
Moi, je regarde beaucoup. Enfin, c'est pas un secret, tout le monde le sait, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission. Mon inspiration principale depuis que je suis là-dedans, ça reste Patrick Beau d'Axolot. J'adore son travail. Par contre, à aucun moment, c'est rentré en ligne de mire que je fasse de la vidéo. Tout simplement parce que c'est un média qui ne m'a jamais spécialement attiré. C'est compliqué, c'est une autre forme de travail. Et j'ai toujours été beaucoup plus attiré par l'audio. Donc c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de faire le Bureau des Mystères. Et je n'ai jamais vraiment pensé à un développement vidéo, en tout cas pour ce format-là.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des podcasts préférés que vous pouvez nous recommander ou des choses que vous aimez écouter ?
Alors là, je te laisse y aller. Parce que moi, à chaud, j'ai du mal à trouver tout de suite. Je vais réfléchir.
Y en a un qui est assez connu, qui est The Last Podcast on the Left. Oui. Podcast nord-américain qui est assez incroyable. Ils sont trois et ils ont des voix assez dingues parce qu'ils sont trois, mais... ça marche toujours, c'est-à-dire que on sait qui parle à chaque fois. Ils ont des voix suffisamment distinctes pour voilà. Puis ils ont une diction, il y a un travail à la prod qui est vraiment dingue. Et ils parlent d'histoires aussi un peu mystérieuses, de faits divers. Ils ont un spectre, je pense, qui est quand même plus large. Et ils consacrent aussi des émissions, des fois trois émissions à un même thème ou à une même histoire. Donc ouais, je dirais The Last Podcast on the Left.
Alors du coup, moi j'ai eu le temps d'aller regarder la liste des podcasts que j'écoute sur mon application. Donc évidemment, tout ce que fait Riviera Ferraille. Calmez-vous. Calmez-vous. Ça peut paraître corpo. On est bien d'accord. Mais il y a une raison pour laquelle on est dans ce label-là. C'est parce qu'on a toujours aimé ce qui se faisait dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'y être. C'est parce que vraiment nos collègues font des émissions qui nous intéressent énormément. Quoi. En dehors de ça, évidemment, j'écoute... elle a été invitée ici aujourd'hui, les émissions d'Anouk, qui sont vraiment très sympas. Je vous conseille d'aller vous abonner à Anouk Perry Podcast. Et effectivement, comme Charles, j'écoute aussi pas mal de podcasts de radio aussi. Alors c'est peut-être un peu bizarre de le dire ici, mais c'est vrai que, parce qu'on est surtout sur du podcast indépendant ici, mais j'écoute aussi pas mal de podcasts de radio, notamment j'adore le travail que fait sur TSF Jazz, 59 rue des Archives. Si vous aimez un petit peu le jazz et que vous aimez surtout les histoires bien racontées avec une bonne bande-son, c'est vraiment une émission parfaite. Moi, c'est un de mes podcasts préférés, donc voilà, je conseille celui-là aussi.
Une autre question ? Ouais.
Est-ce que vous définiriez d'abord comme sceptique dans toutes ces mouvances autour du paranormal, etc. Voilà.
Bon, globalement, oui. Je pense que c'est pas, on s'en est jamais vraiment caché. Après, voilà, on essaye toujours de trouver l'explication rationnelle qu'il y a derrière les faits mystérieux. Des fois, il se trouve qu'on n'en trouve pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire qu'on l'a pas trouvé. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Je pense que tu as à peu près la même.
Ouais. Alors, avec quand même une petite appétence, c'est-à-dire que j'adore les histoires qui ne sont pas résolues, quand même. C'est-à-dire que je suis très sceptique, mais mes préférées sont celles qui ne trouvent pas de fin et qu'on peut pas toujours expliquer. Donc, sceptique, mais avec quand même une envie derrière de mystère.
Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ouais, je pense. Bon, bah, dernière question sur le gong.
Alors, vous avez plein d'histoires différentes avec plein de thèmes différents. Moi, je voulais savoir comment vous, est-ce que vous avez des critères en fait? Comment vous sélectionnez vos histoires?
En fonction des goûts, j'ai envie de dire, principalement. On n'a pas la même appétence pour les... Enfin, on n'apprécie pas forcément les mêmes sujets. Quand vous écoutez l'émission, vous avez sans doute remarqué que Charles parle beaucoup plus de théorie du complot, de trucs qui impliquent la CIA, les ovnis, machin. Voilà. Moi, c'est pas trop ma cam. Je suis plus sur les, tout ce qui est voilà, fantômes, horreur gothique, etc. Mais c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est qu'on n'a vraiment pas les mêmes centres d'intérêt sur ces histoires-là. Et ça vous permet, vous, d'avoir un panel assez large d'histoires mystérieuses. Ouais. Quoi.
Et c'est vrai que pour aussi compléter la question précédente, si en plus, en parlant d'une histoire qui fait un peu peur, sur laquelle on peut rire, et qu'en plus, on peut tordre le cou à une théorie de complot... C'est pas plus mal.
Oh oui.
C'est pas
plus mal. Justement, j'avais adoré faire l'épisode où on avait parlé du mystère du pâtissier qui tuait des gens à Paris. Mmh. Et parce qu'on avait lu le bouquin de Laurent Deutsch où justement il disait que oui, il y a eu plein de meurtres à cet endroit et tout. Et en fait, il donnait déjà la mauvaise rue et l'histoire n'était pas totalement vraie. Donc en fait, c'était hyper sympa de pouvoir accéder à des documents qui racontent ce qui s'est vraiment passé, des documents qui datent du 18e, du 17e siècle des fois, et de pouvoir tordre le cou à certaines rumeurs. C'est un truc qu'on essaye de pas mal faire dans l'émission. Merci.
Parfait. Bon, bah, merci à vous d'avoir assisté à ce premier live du Bureau des Mystères. Merci Charles et Mathias.
Merci.
Excellent. Puis je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois.